Musique.
Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel, 22h à Brazzaville chez Roga Roga et à Paris où Roga Roga sort en concert le 1er février. Et le journal est présenté par Charlotte de Rouen. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. La Syrie salue la décision de l'Union européenne d'assouplir les sanctions. Les 27 se sont accordés ce lundi sur une feuille de route pour desserrer les sanctions imposées à Damas sous le régime de Bachar al-Assad. Les survivants de la Shoah présents aujourd'hui aux commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Des survivants qui appellent à se souvenir pour que l'horreur ne se reproduise plus. Ces tensions entre les États-Unis et la Colombie, la décision de Bogota de refouler les avions transportant des migrants expulsés des États-Unis a déclenché la colère de Donald Trump et fait planer la menace d'une guerre commerciale avant finalement qu'un accord ne soit trouvé. On vous explique tout dans un instant. Et puis en Espagne, 3 mois après les inondations meurtrières, les familles des victimes veulent porter plainte contre l'État pour homicide involontaire. La décision a été prise par les 27 ministres des Affaires étrangères européens réunis ce lundi à Bruxelles. La chef de la diplomatie européenne avait annoncé dès la semaine dernière que l'Union ferait tout pour favoriser la Syrie, pour aider à la reconstruction du pays en assouplissant les sanctions établies par les Européens sous le régime de Bachar el-Assad. Les Européens qui ont mis sur la table toutefois quelques exigences comme l'inclusion des femmes ou la représentation des minorités. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
L'Union européenne n'annule pas les sanctions à l'encontre de la Syrie, mais elle les suspend. Ceci veut dire qu'elles pourraient être rétablies si, je cite, « des mauvaises décisions étaient prises ». Une levée réversible des sanctions qui va s'appliquer au secteur susceptible de favoriser la remise en route de l'économie syrienne. D'abord le secteur financier afin de rouvrir les vannes des investissements nécessaires. Ensuite l'énergie, car la Syrie est largement dépendante, en particulier pour l'électricité ou encore le kérosène aérien. D'ailleurs les sanctions sur les transports, aériens en particulier, seront également suspendu, avec à l'horizon la réouverture des aéroports et la reprise des vols directs entre l'Europe et la Syrie, ce qui vise aussi à faciliter le retour des réfugiés. En revanche, certains volets des sanctions européennes restent en place tels quels, comme par exemple les sanctions qui visent la famille élargie de Bachar el-Assad, ou bien les sanctions qui empêchent d'exporter vers la Syrie des matériels de sécurité qui pourraient être utilisés pour réprimer des manifestations. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Israël annonce la mort de 8 des otages libérables dans la première phase de l'accord de trêve avec le Hamas. Pas d'informations sur l'identité des otages décédés. Notez par ailleurs que ce soir, le djihad islamique allié du Hamas à Gaza a diffusé la vidéo d'Arbel Yehoud. Cette civile israélienne de 29 ans doit être libérée jeudi. Dans l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie, l'armée israélienne a affirmé ce lundi avoir éliminé plus de 15 terroristes et interpellé 40 individus recherchés au cours de la vaste opération militaire entamée la semaine dernière à Jenin, bastion des groupes armés palestiniens, donc en Cisjordanie. 80 ans après la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, une cinquantaine de survivants a assisté aujourd'hui aux commémorations. 8 décennies plus tard, ils ne sont plus très, très nombreux et très âgés, donc. Albrecht Weinberg est l'un d'entre eux. Il a été déporté à Auschwitz en 1943. Il fêtera son 100e anniversaire en mars. Écoutez.
Je n'étais qu'un numéro, le 11-6-927. Comment pourrais-je pardonner à l'Allemagne? Ce qu'on nous a fait est tellement horrible qu'une personne normale ne peut pas le comprendre. Et il n'y a presque plus de survivants, juste une poignée. Lorsque nous serons tous morts, on ne pourra que lire des livres. Ça n'est pas la même chose. C'est pour cela que je vais dans des écoles, pour leur dire de tout faire, pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. produisent. Les cauchemars me poursuivent en permanence. C'est incroyable combien cela a marqué toute ma vie. Pas une journée ne se passe sans que je pense à mes proches qui n'ont pas survécu. J'ai ce numéro tatoué sur mon bras. Je suis tous les jours un prisonnier du camp de concentration.
Des propos recueillis par Pascal Thibault. L'ONU très inquiète de la situation à Goma dans l'est de la RDC. La situation humanitaire y est extrêmement inquiétante avec un nouveau seuil de violence atteint, avec des zones de combat actives dans tous les quartiers de la ville. Voilà les mots du coordinateur humanitaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise tentent de prendre le contrôle de Goma, la capitale du Nord Kivu. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra une réunion demain, mardi, une session d'urgence sur cette crise. La menace n'aura duré que quelques heures, mais elle a ébranlé les relations entre les États-Unis et la Colombie. Après la décision de Bogota de refouler des avions transportant des migrants expulsés par les États-Unis, le président américain Donald Trump a menacé d'imposer 25% de droits de douane sur les produits colombiens, ce à quoi la Colombie a répondu par la même menace, avant finalement que les deux gouvernements annoncent être parvenus à un accord dans la nuit. Justine Fontaine, si ces droits de douane sont un levier de pression important, c'est parce que Washington est un client important pour Bogota.
Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la Colombie. Les deux pays sont liés depuis plus de 10 ans par un traité de libre-échange et plus d'un quart des exportations colombiennes sont destinées au marché américain, principalement du pétrole brut et de l'or, mais pas seulement. Pour la Saint-Valentin qui approche, les fleurs qui seront offertes par les Américains sont bien souvent cultivées en Colombie. Et puis, un café sur 4 servi aux États-Unis vient de grains cultivés dans ce pays d'Amérique du Sud. Une hausse des droits de douane aurait donc fait grimper les prix de ces produits pour les Américains et probablement fait perdre des parts de marché aux produits colombiens. Les consommateurs de ce pays d'Amérique du Sud auraient aussi eu à perdre car les États-Unis vendent plus à la Colombie qu'ils n'achètent. On parle là principalement de pétrole, de machines ou encore d'engrais. Le président Gustavo Petro, élu il y a 2 ans et demi, tente de nouer de nouvelles alliances commerciales pour moins dépendre des États-Unis. En attendant, pour éviter des pertes trop importantes pour son économie, il a été contraint de reculer face à Donald Trump.
Justine Fontaine, le Danemark va consacrer 2 milliards d'euros à la sécurité dans l'Arctique et l'Atlantique Nord. Décision qui intervient alors que Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises vouloir contrôler le Groenland, ce territoire autonome danois. Les fonds investis serviront à acheter 3 nouveaux navires, des drones et aussi à renforcer la capacité de surveillance par satellite. En Serbie, des milliers d'étudiants entament 24 heures de blocage à Belgrade. Ils dénoncent la corruption et réclament depuis des semaines que toute la lumière soit faite sur l'accident mortel de la gare de Novi Sad. La mobilisation a commencé ce matin par 15 minutes de silence en hommage aux 15 personnes tuées dans l'effondrement du auvent en béton de cette gare récemment rénovée dans la deuxième ville du pays. En Espagne, près de 3 mois après les inondations dans la région de Valence qui ont fait 224 morts, les familles des victimes s'organisent. Elles préparent des plaintes contre des représentants des administration publique. Hier, elles se sont réunies avec leurs avocats. Reportage d'Élise Gazangel.
3 mois après les inondations, la colère n'est pas retombée à Valence, mais elle a uni près de 200 proches de victimes dans une association qui réclame justice. Rosa Maria Alvarez a perdu son père, Manuel.
Depuis le début, je pense que mon père n'est pas mort naturellement. Je dis toujours, il n'est pas mort, on l'a tué. Et comme pour chaque homicide, il faut réclamer justice.
Une plainte pour homicide involontaire va donc être déposée contre notamment Carlos Mazón, le président de la région de Valence. Sonia Fuster, dont le père Ernesto est mort, explique.
Quand l'urgence a été activée, il n'était pas là, il est parti à un repas. Il a manqué les heures décisives et critiques de prise de décision.
Une procédure qui risque d'être longue et laborieuse, mais nécessaire pour Encarna Martinez, dont le frère José a été emporté.
Ça sera très difficile, mais au moins je mourrai en me disant que j'ai essayé de faire quelque chose, que j'ai avancé et j'irai le plus loin possible.
Dans la région, 224 corps ont été retrouvés et 3 sont toujours disparus. Élise Gazangel, Alfafar, RFI.
C'est un rêve de gosse qui se réalise pour le chef français Paul Marcon. Il a décroché aujourd'hui le Bocuse d'Or, le Graal de la gastronomie mondiale. Les candidats de cette épreuve de cuisine devaient notamment servir à l'assiette un mets qui sublime le céleri et le homard.